Vous avez 3, 4, 5 ou 6 ans. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous pensez à quoi? Vous rêvez à quoi? Stéphane de Moustier.
Alors moi, c'est très trivial, mais je crois que les premiers souvenirs que j'ai... Ce dont je me souviens avoir eu dans la tête à cet âge-là, je pense, c'est que je voulais très très fort avoir un jeu électronique. À l'époque, il n'y avait pas de console, etc. Comme on en connaît aujourd'hui, c'était des petits jeux rectangulaires à l'unité. Mon grand frère en avait, j'en avais pas. Mon rêve, c'est d'avoir enfin ça.
Simon Gaucher.
Alors moi, je crois que la première fois que j'ai formulé un métier, ou comment je voyais mon avenir, c'était devenir aventurier. Et je crois que ça vient d'une fois où j'étais en vacances, je crois que c'était sur une île, et j'avais dit à ma mère, bah voilà, je pars. Je sais plus quel âge j'avais, mais du coup ma mère m'avait dit d'accord et m'avait préparé un goûter. Et j'étais parti, et il y avait un goût de liberté immense, quoi. J'ai été manger mon goûter sans doute 100 mètres plus loin, et après j'étais rentré, mais pour moi c'était une expédition hors norme.
Et où est-ce que vous vouliez partir?
Je sais pas exactement, mais je savais que... peu importait, ce qui importait le plus, c'était le fait de partir justement et de gagner cette liberté qu'on a rarement à 5-6 ans. Et en y repensant, en fait, ma mère aurait très bien pu se dire « mais non, c'est complètement fou de laisser partir un enfant comme ça sur la route ». Mais non, elle l'a pas fait et finalement, c'était un moment de plénitude fou.
Sans peur. Vous n'aviez pas peur de partir comme ça?
À moi, pas du tout, non. J'avais mon goûter dans mon sac, donc rien ne pouvait m'arriver.
Et c'était quoi la chose imaginaire à laquelle vous croyiez quand vous étiez enfant?
La chose imaginaire... Alors moi, à chaque fois, avant de m'endormir, je disais « Esprit, si tu es là, apparaît ou disparaît à jamais. » Et j'ai fait ça très très longtemps, mais jusqu'à adolescent, et à un moment, un esprit est apparu.
Vous faisiez très peur à vos parents, en fait, enfant.
Bah, ce jour-là, en l'occurrence, quand j'ai eu l'impression qu'un esprit était apparu, je suis descendu les voir. Ils étaient en train de regarder la télévision et je leur ai dit « Maman, papa, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête. » Et puis, ils m'ont dit « Mais non, va te recoucher. » Et je suis retourné me recoucher.
Stéphane de Moustier.
La chose imaginaire, je mets de côté la petite souris ou Jésus. Je me souviens que ma sœur, j'avais une sœur qui a un an de moins que moi, quand on se disputait, elle passait son temps à s'adresser à un personnage qui n'existait pas, qui était prétendument à côté d'elle. Elle le prenait à témoin pour dire combien elle me trouvait ridicule. Je savais que ce personnage n'existait pas et pourtant ça me rendait complètement fou comme s'il était là. Et elle avait trouvé la faille car c'était vraiment le point de non-retour. Quand elle activait ce bouton-là, elle savait que j'allais voir rouge, elle me tenait. Et c'était son outil de domination et c'était imparable. Donc il faut croire que je croyais vraiment en cet être imaginaire.
Triste du salon, les enfants qui se perdent. Qu'est-ce qui t'arrive?
Je suis perdue.
Alors vous la raccompagnez, elle a l'air bien triste,
sûr,
elle pleure.
Ça arrive très souvent, hein. Alors on se fait une joie, bien entendu, de ramener ces petits-enfants perdus au refuge, et aussitôt ils retrouvent leurs parents ou alors leur maîtresse, il n'y a jamais de trop gros problèmes.
Il ne faut pas pleurer, est-ce que tu t'es bien amusée aujourd'hui?
Oui.
Eh ben tu vois, qu'est-ce que tu as fait?
Des tours de manège.
Eh ben alors tu vois, tu as passé tout de même un bon jeudi, puis ta maman t'attend. Tu vas la retrouver bientôt.
Mais c'est une sœur religieuse.
Tu la retrouveras d'autant plus facilement qu'elle doit avoir une cornette. Alors ça va se voir, hein.
Il est 23h et on ne peut plus se perdre. Il y a trop de cartes sur nos téléphones, trop de possibilités d'entrer des adresses et d'obtenir un itinéraire pour pouvoir, sans mentir, affirmer ne pas savoir où on est. On se localise soi-même très facilement. Stéphane de Moustier a filmé deux enfants, les siens, deux jumeaux, Paul et Cléo, 3 ans et demi. L'âge où il ne reste que quelques années, voire quelques mois de totale liberté, on ne sait pas lire une carte et rien n'est délimité. Dans son film « Allons enfants », c'est Paris, le parc de la Villette, les enfants jouent et se perdent, les adultes ont la tête ailleurs. Ça dure presque une journée et la peur n'arrive jamais. Et le drame n'arrive jamais. Et on réalise qu'on n'a plus l'habitude. Et Cléo marche en faisant confiance à la main de Louise qu'elle rencontre par hasard. Le titre du film reprend les paroles de l'hymne écrit en 1792 pour faire suivre Allons enfants par un Paris d'aujourd'hui qui a survécu à 2015 et à ses attentats. Il répond aux armes dans la ville par le tout début de la vie. Le tout début de la vie n'a pas peur, n'imagine pas la violence, s'invente un monde. Le tout début de la vie fait confiance, il ne panique pas. Simon Gaucher, lui, pense qu'il y a une crise de l'imaginaire. Le nôtre est virtuel, sur des écrans. Il faut être connecté entre nous, sinon il ne se voit pas. À la Villette, on voit des humains marcher vers des créatures invisibles. Simon Gaucher décide de naviguer vers une île utopique, celle de Thomas More, un imaginaire pas proposé par un écran mais par le désir. C'est l'expérience qui guide les corps et pas l'informatique. Il annonce « Chers parents, chers amis, ne soyez pas affectés par notre disparition programmée. » Il part sur une île répertoriée sur aucune carte. Il ajoute « Si l'utopie était présente dans le réel, ça ne serait pas arrivé. Si tout allait bien, on n'aurait pas besoin de se perdre. Mais quand la ville fait peur, il vaut mieux revenir au tout début de la vie pour dire ce qu'on répète souvent sans en être très sûr « Je n'ai pas peur ». Il y aura Stéphane de Moustier pour son film « Allons enfants » sorti au cinéma depuis le 18 avril. Il y aura Simon Gaucher, metteur en scène plasticien, pour son projet « Le radeau utopique », une expédition à la recherche de l'île Utopie. Clément Schneider a fait de l'expérience un film documentaire « L'île errance ». À la musique, il y aura Heinz, quatuor espagnol. Leur deuxième album s'appelle « I Don't Run ». C'est une vie d'artiste sur France Culture. Ça commence à peu près à 3 ans et demi.
Hé, hey, petite fille, si je te laisse là, tu peux rester là toute seule ? En fait, on est resté dehors, on a attendu, donc maintenant, je voudrais juste savoir, est-ce que je peux vous juste la laisser
et puis, je peux pas la garder, c'est pas possible.
Et pourquoi vous pouvez pas la garder ?
Écoutez, moi, on m'a dit... C'est ça les conseils. Retournez là où vous avez trouvé l'enfant, sûrement les parents vont revenir. Mais dans le cas contraire, si dans 10-15 minutes il ne se passe rien, vous revenez me voir, je vais essayer peut-être.
Vous rendez compte quand même que là, il y a 2 secondes, vous m'avez dit d'attendre devant, et maintenant vous me dites de retourner
peut-être
là-bas.
Que les parents sont là-bas, et vous attendez là-bas.
Peut-être je l'ai trouvée là-bas, mais je ne sais même pas si elle s'est perdue à cet endroit-là. Ça se trouve, ce n'est pas là où elle s'est perdue, donc ça ne sert à rien de
c'est
retourner
ce qu'on
là-bas.
M'a dit. Attendez là-bas. Et si dans 20 minutes il ne se passe rien, vous revenez me voir, on va voir. Je vais rappeler le commissariat.
Ça a l'air de vous inquiéter, hein, les enfants perdus, en tout cas.
On a ça tout le temps, en été. En été, c'est tout le temps qu'il y a des enfants perdus. Les parents finissent par les retrouver.
C'était un extrait du film « Allons enfants », Stéphane de Moustier, quand Louise trouve Cléo. Ils avaient quoi comme lien, Cléo et Paul, ce frère et cette sœur, ils sont jumeaux, c'est vos enfants. Qu'est-ce qui vous intéressait déjà dans leur lien à eux deux ?
Ce qui m'intéressait, c'est qu'ils soient à la fois si semblables et si différents. C'est des jumeaux, donc je les ai toujours observés ensemble. Et en même temps, c'est un garçon et une fille, puis c'est deux êtres différents, avec des codes génétiques différents, donc ils ont chacun leur personnalité. Et je trouvais que c'était un événement visuel de les regarder, déjà. Donc c'est pour ça que j'avais envie de les filmer. Après, je pense qu'on a envie de filmer ceux qu'on aime, et donc j'ai eu envie de les filmer aussi. Peut-être que si, même très probablement, s'ils n'avaient pas été jumeaux, j'aurais peut-être aussi voulu les filmer. Je trouve que c'est un tandem comique, c'est un tandem... frère sœur total. Ils s'aiment, ils se détestent, mais ils sont tout le temps. Ils ont un lien qui est indéfectible, et ça, je trouve ça beau à voir, beau à filmer. Voilà.
Et comment vous avez fait concrètement? Parce que c'est la première question qu'on se pose quand on voit le film. Donc Cléo et Paul jouent, et puis comme ils jouent à cache-cache, finalement Cléo s'en va un peu plus loin et on la retrouve plus. Comment vous avez fait pour, parce qu'ils ont vraiment 3 ans et demi, vous avez inventé des situations, vous avez pour leur faire comprendre que qu'ils regardent pas la caméra, que vous n'étiez plus là et qu'ils vivaient leur vie.
Il y avait, j'ai fait au jour le jour déjà. On a tourné le film chronologiquement et chaque jour je mettais en place une petite situation dont ils allaient pouvoir s'emparer, et après c'était charge à nous de capter ce qu'on pouvait capter avec ça. C'est-à-dire que c'était un mélange de eux qui me dirigent parce qu'ils font absolument ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un enfant de 3 ans et demi de faire quelque chose s'il ne veut pas le faire. On ne peut pas non plus lui demander de dire un texte puisqu'il n'en est pas capable. Et ils sont d'une liberté totale, c'est ce qui est merveilleux chez eux. Mais du coup, ils sont indomptables. Et en même temps, moi, évidemment, à chaque fois, je crée une situation où je m'imaginais qu'ils allaient, ça allait les amener à avoir telle ou telle action. Et le jeu, après, consistait à lier les situations les unes avec les autres pour que la trame narrative se déploie. Voilà comment j'ai fait. Mais chaque scène, chaque jour, c'était un défi. Et en plus, ça a changé au fur et à mesure. C'est-à-dire que eux, leur perception de qu'est-ce que c'est le tournage évoluait aussi.
Parce qu'eux, ils pensaient que vous faisiez quoi ?
Ils savaient qu'on faisait un film, mais ils savent pas ce que ça veut dire faire un film. C'était des mots pour eux. On fait un film, parfois on rentrait à la maison le soir, et ils me disaient, alors quand est-ce qu'on fait le film ? Je disais, mais on l'a fait toute la journée le film. Enfin, on l'a fait, on pouvait pas le faire toute la journée, mais enfin, on venait de le faire en tout cas. Je disais, mais on l'a fait là le film. Et voilà, ils comprenaient pas. Et aujourd'hui encore, enfin, il y a 2 semaines, on est passé place de la République, et Cléo a dit, ah, on fait le film. J'ai dit, mais non, le film, tu l'as fait il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, on le fait plus. Là, c'est la place de la République, c'est un endroit où on vit. Et je me souviens que Vimela, elle disait souvent, il y a 2 parties dans le film, enfin dans le tournage. Il y a une première partie où Cléo ne savait pas qu'on faisait ne comprenait pas ce que c'était que faire un film, et le faisait. Et une deuxième partie où Cléo ne savait pas ce que c'était que faire un film, mais avait compris qu'elle avait beaucoup de pouvoir sur nous. C'est-à-dire que on dépendait énormément de son bon vouloir. Et donc c'était des stratagèmes, ou en tout cas des opérations qui consistaient à mobiliser Cléo ou mobiliser Paul au jour le jour et scène par scène, parce que selon les situations que je leur proposais, ils avaient envie ou pas envie. Puis parfois, ils n'avaient pas envie de venir sur le plateau. Donc voilà, ça a été évolutif comme ça, mais chaque scène était une conquête, mais une conquête joyeuse, une conquête plaisante. En plus, c'était une conquête à ciel ouvert à la Villette, dans un parc que j'avais envie de filmer et que je trouve merveilleux. Donc c'était une conquête agréable, mais rien n'était simple. Mais ça faisait partie aussi du plaisir de faire ce film, de faire en dehors des clous habituels et en dehors de la zone de confort que ma petite expérience de metteur en scène, de réalisateur, je connaissais.
Et il serait très différent, le film, si vous le faisiez aujourd'hui, à l'âge qu'ils ont aujourd'hui ?
Oui, il serait complètement différent. Aujourd'hui, ils ont 5 ans. Bon, il y aura un certain nombre de points communs, mais tout de même, à 3 ans et demi, il y a un rapport au langage. Enfin, moi, je suis un jeune père et je constate qu'à chaque âge est merveilleux. Et à chaque âge, je trouve peut-être que l'âge que je découvre est encore plus passionnant que celui d'avant. Mais tout de même, entre 2 ans et 3 ans et demi, je trouve ça extraordinaire quand ils commencent à parler, quand le langage n'est pas encore complètement en place. Le corps est encore un peu celui d'un bébé, déjà celui d'un enfant, enfin quelque chose, voilà, de plastique et dans leur fonctionnement aussi, qui est incomparable. Et donc oui, il serait différent aujourd'hui, mais il serait pas moins intéressant. On aurait des enfants qui raisonnent mieux, qui parlent plus, qui comprennent davantage, qui ont plus peur aussi, parce que évidemment, à mesure que la prise de conscience du monde, ou en tout cas que le rapport au monde se fait moins intuitif, qui se fait plus intelligible, ben le rapport à la peur change aussi. Donc aujourd'hui, voilà, le film serait peut-être plus anxiogène si je le faisais maintenant.
On va écouter la voix de Jacques Doyon. C'était en 1995 et il avait tourné Ponette. Alors il parle de l'âge des enfants au cinéma.
Le sujet, c'était tout de même quelque chose comme refuser la mort. Un être humain refuse la mort. Et à partir de 5 ans, on est marrant. C'est-à-dire qu'on sait bien que ça existe. Alors même si les enfants de 5 ans sont un peu angoissés par rapport à nous, parce qu'ils pensent que se projeter à en personnage chauve de grand-père ou d'arrière-grand-père, enfin tout ça, c'est une projection qui est bien trop difficile pour eux. Mais à partir de 5 ans, tout de même, ils savent, ça va se terminer, un jour plus tard. 4 ans est un âge formidable parce que ils commencent peut-être ils sont à la fois dans. Enfin, c'est trop schématique ce que je dis, hein, mais 3 ans on ne sait pas, 4 ans on commence à avoir quelques doutes, et puis 5 ans on sait. Alors c'est sur cet âge de doute qu'on pouvait travailler, parce que je ne voulais pas envoyer un enfant dans le refus de la mort passé 5 ans. Il me semblait qu'on entrait un peu dans la folie là et que je voulais pas faire mettre un pied de l'enfant dans la folie du tout.
Ça rejoint ce que vous disiez, Stéphane de Moustier. Jacques Doyon dit à 5 ans, on a la conscience qu'on va mourir, qu'on peut mourir. Vous disiez à 5 ans, il y aurait eu plus de peur. Et c'est vrai que c'est ça qui est incroyable dans le film. Une des choses qui est étonnante, c'est qu'il n'y a jamais de peur de Cléo. Enfin, au départ, elle sent qu'elle est perdue, donc elle pleure un petit peu. Mais il n'y a pas la peur que nous, en tant que spectateurs adultes, on attend.
Oui, en tout cas, on a constamment une lecture un peu, une vision un peu schizophrène du film, c'est-à-dire qu'on est, nous, adultes, conscients de la situation et donc en proie à une forme de peur, puisqu'on sait que la situation est périlleuse. Et en même temps, le film formule la proposition de vivre l'expérience à hauteur d'enfant, et eux, ils n'ont pas peur. Eux, ils sont tellement immergés dans le présent, immergés dans le jeu. Il y a le jeu inaugural du film, mais chaque séquence, chaque moment de vie est propice à un moment de jeu et à un moment de rapport au présent total qui fait qu'ils oublient la situation générale ou qu'ils n'en ont pas conscience et donc ils sont pas dans la peur. Et au montage, on a travaillé ça, c'est-à-dire qu'on savait que la situation avait quelque chose d'anxiogène, mais on n'a jamais creusé ça, on a plutôt cherché à restituer le vécu de l'enfant. C'est vraiment là qu'est la proposition du film. Mais c'est vrai, j'avais pas... tout à l'heure, Vous me posiez la question, que serait le film si je tournais aujourd'hui avec les enfants qui ont 5 ans? Et je vous disais ça, il y aurait plus de peur, parce que plus de conscience. Et c'est vrai que mes propres enfants, je constate, c'est à partir de l'âge de 5 ans, c'est assez juste que dit Jacques Doyon, là, parce que je suis en plein dedans, qu'ils se mettent à parler de la mort, et ils en parlent différemment selon les uns ou les autres, mais ils en parlent, c'est juste.
Simon Gaucher, vous auriez pu jouer dans le film de Stéphane de Moustier quand vous étiez enfant, avec votre petit sac à dos, votre goûter, et vous perdre volontairement? En tout cas, c'est quelque chose qui vous a pas quitté, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais vous partez en expédition, donc vous êtes vraiment devenu presque aventurier, ce dont vous rêviez enfant, et vous vous mettez en vacances du monde, ce que font un petit peu Cléo et Paul, sans le savoir, pendant un moment. C'est quoi se mettre en vacances du monde ?
Se mettre en vacances du monde, c'est cultiver des espaces parallèles. C'est sortir du rythme constant et fou de la vie, c'est prendre les chemins de traverse. Quand on est enfant, c'est beaucoup plus facile, je crois, de prendre les chemins de traverse. C'est beaucoup plus facile de partir à la recherche de lieux imaginaires. Quand on grandit, il y a tout un ensemble de conventions qui fait que ça paraît étrange ou ça paraît bizarre peut-être d'emprunter ces chemins-là. Après, quand j'étais enfant... je rêvais de faire du cinéma. J'avais demandé à mes parents d'acheter une caméra, ce qu'ils n'ont jamais fait. Peut-être que j'aurais fini par faire des films autrement. Mais il y avait quelque chose effectivement dans sortir du cocon familial, sortir du nid qu'on a construit pour vous, qui est très plaisant. Et voilà, de partir explorer le monde, ça c'est quelque chose que j'adorais faire et que j'adore toujours faire en fait.
Stéphane de Moustier, c'est ça qui est intéressant, c'est justement le regard des enfants, ou le regard, ils font même pas trop attention, mais en tout cas les enfants au milieu des adultes, on est donc à la Villette à Paris, et les adultes ont l'air de zombies. En tout cas, c'est vrai que pendant tout le film, on se dit mais comment ils peuvent pas remarquer que cette petite fille ou ce petit garçon est tout seul? Alors il y en a un ou deux, et dont Louise qui va s'en rendre compte, mais les autres sont rivés sur des téléphones ou...
Ouais, alors il y a deux choses. Déjà, le hasard a voulu que je tourne le film au moment où il y avait la folie des Pokémon Go. Donc le parc de la Villette était effectivement mais rempli
de vrais zombies,
de personnages fantomatiques qui faisaient l'effet de zombies, qui étaient les yeux rivés sur leurs écrans. Et ça, c'était inespéré pour le film, parce qu'on avait vraiment des adultes qui étaient déconnectés du réel, qui était en vacances du réel, mais probablement pour des mauvaises raisons, et ça rendait les choses crédibles, ça rendait tellement crédibles qu'ils ne voient pas le monde qui les entoure, qu'ils ne le voient plus, et ça racontait quelque chose d'assez fort sur notre monde. Après, moi, ce qui me passionne, là, on parle de la vacance et du désir de se mettre en retrait. Ce qui est magnifique chez les enfants, c'est qu'ils accueillent tout ce qui se présente comme une donnée, et ils vont totalement l'embrasser. Voilà, là, les enfants, ils n'ont pas fait le choix de se retrouver seuls, par exemple, dans mon film, mais sauf quand ils se retrouvent seuls, ben, ils vont naturellement vers le monde. Ils vont naturellement à la rencontre de ce qui se présente. Et voilà. Et ça, c'est un art d'être qu'on a tous à méditer, je crois.
Et vous êtes beaucoup intéressé à l'architecture, à l'importance du lieu. Pourquoi la Villette? Parce qu'il y a plusieurs endroits comme ça dans Paris qui peuvent être aussi cosmopolites. Ou pourquoi vous êtes...
Ben, j'ai choisi la Villette déjà parce que c'est un parc que je connais, j'habite pas très loin. Et comme je le disais tout à l'heure, on filme bien ce qu'on aime, on filme également mieux les lieux qu'on aime. Et j'aimais bien que la Villette, ce soit un lieu très mêlé, avec des gens... Enfin, je trouve que c'est un Paris qui me plaît, c'est un Paris urbain, enfin, c'est une urbanité contemporaine, on n'est pas dans une vision surannée de Paris. J'adore Paris, j'adore le Paris haussmannien, etc. Mais la Villette, c'est quelque chose de très moderne, de très contemporain, de très... cosmopolite aussi, vous l'avez dit. C'est à la fois un parc qui appartient à Paris, mais qui appartient aussi à sa banlieue, puisque c'est un parc limitrophe. Et puis, c'est entre deux portes. C'est à la fois un lieu où on se rend, et c'est aussi un lieu qu'on traverse. Donc, j'aimais bien tout ça. Et puis, en termes de lignes, en termes d'architecture, de sensations, j'avais l'impression... j'avais envie de filmer ce lieu. Avec ses allées, avec ses frontières, et avec aussi sa quantité d'espace. Parce qu'en fait, la Villette, quand on pratique ce parc, on découvre que c'est un parc avec plein de micro-espaces. Et donc, tout ça me semblait très propice à la déambulation des enfants, à leur perte, et puis à faire naviguer l'histoire au gré des différents espaces.
Non, c'est dangereux, c'est une arme. Et puis c'est très lourd.
Mais l'autre ?
C'est leur pistolet, ça. C'est pour qu'on te protège, toi.
Mais bon, papy, c'est très bien tuer les méchants.
Qui ? C'est très bien tuer les méchants ?
Oui, bon papa.
Ton papa ?
Non, bon papa.
Mon papa, il tue les méchants.
Ouais, il a... Bon, tu sais, nous, on prend un pistolet plein d'eau et puis on leur tient dessus.
Faire attention quand même, hein.
Pourquoi?
Parce que c'est dangereux.
Oui, ben vous tirez dessus.
Comment?
Quand il y a des méchants, vous les tirez dessus.
Voilà, c'est ça. Faut pas qu'ils fassent de mal.
Ils sont où les méchants?
Les méchants, ils sont partout, ils se cachent.
Mais moi aussi, elles se cachent très loin.
Ah bon?
Bah quand tu caches très loin, après nous on la voit plus.
Ah ouais. Bon maintenant retourne jouer le petit bonhomme. D'accord? Tu vas retrouver tes parents.
Eh hey, oh bonhomme. Attention quand même.
Vous tuez les méchants, Stéphane de Moustier. Avec un pistolet à eau.
Si seulement je suis... Non, alors il dit mon bon papa, il dit pas mon papa, il tue les méchants avec un pistolet à eau, mais c'est vrai que c'est une séquence assez amusante où il y a un espèce de dialogue de sourds, donc entre Paul et un militaire. Et ça, c'est... Le pari de ce film, c'était de montrer aussi le choc ou le contraste entre la poésie des enfants, leur imagination, leur drôlerie aussi, parce que ils me font souvent rire et ils sont drôles, et face à ça l'âpreté du réel. Et là, l'âpreté du réel, elle est implacable, puisque dans le parc de la Villette il y a des militaires, puisqu'on est dans le Paris post-attentat où les militaires sont là pour jouer le rôle qu'on leur a dévolu. Et voilà, et je voulais ça, je voulais que ce soit un conte, mais ancré totalement dans le réel. Donc il y a ces deux dimensions qui sont représentées, et cette scène, elle est assez emblématique de ça.
Et pourquoi vous avez choisi, pour parler de ce Paris post-attentat, l'enfance, j'imagine qu'ils sont nés aussi autour de 2015, un peu avant ou un peu après. Est-ce qu'on réfléchit déjà à quelles vont être leurs questions et comment on va répondre à ça ?
Je pense que j'ai cru dans le film, où j'ai eu la certitude que je tenais un film, quand je me suis dit ça, que L'enfance, ça représente évidemment l'innocence, et aujourd'hui, à Paris, il y a une forme d'innocence perdue. Enfin, à Paris ou dans nos villes modernes, il y a une sorte d'innocence perdue. Et je me disais, tiens, en montrant l'innocence de ces enfants, on va forcément questionner l'innocence perdue de la ville, questionner aussi à part fin de liberté que eux ils éprouvent naturellement et qui s'est nécessairement estompé actuellement. Donc c'était ça. Après c'est vrai, moi mes enfants, je me souviens que leur crèche était dans le même pâté de maison que Charlie. Et je sais pas si c'était vrai ou pas, mais les dames de la crèche avaient dit qu'elles avaient entendu. Ce qui me semble aujourd'hui impossible, parce que j'ai lu Le Lambeau, le livre qui restitue l'expérience depuis un des survivants.
De Philippe Lançon.
Philippe, voilà, exactement, Lançon. Et il dit que c'était des petits cliquetis très loin des cliquetis, très loin des détonations qu'on connaît ou qu'on s'imagine à cause du cinéma. Donc ça paraît impossible qu'on l'ait entendu si loin. Mais en tout cas, voilà, on habitait devant le Bataclan, les enfants étaient à l'école près de Charlie. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un chemin inconscient qui s'est fait et qui associait ces enfants et aussi notre désir d'avoir des enfants à un climat qui semble pas propice et en même temps, ces enfants-là aussi, ou en tout cas cette jeunesse qui grandit, qui fait croire qu'un avenir est possible aussi. Donc il y avait peut-être aussi tous ces éléments-là qui s'accumulaient pour me faire croire dans ce film et me faire dire qu'il y avait là un sujet.
Et qui console qui finalement ? Parce que Cléo, elle rencontre Louise, cette jeune femme qui paraît un peu perdue, donc Cléo va rester avec elle, Louise quand même a deux, trois choses qui sont prévues dans sa journée, dont un rendez-vous avec un ancien amant qui lui rend un sac de chaussures des années après. Et on a l'impression qu'elle a beaucoup plus peur et elle est beaucoup plus angoissée évidemment que Cléo.
Oui, c'était aussi l'idée de se dire que Cléo s'est perdue, mais la rencontre avec le personnage de Louise, qui est joué par Vimala Ponce, nous montre que la perdition de Louise, de l'adulte, est finalement nettement supérieure à celle de l'enfant, et effectivement, qui a le plus besoin de l'autre ? Cléo, parce qu'elle a 3 ans, elle a besoin d'un adulte, mais on se rend compte à mesure que l'histoire progresse, on se laisse surprendre à observer que c'est le personnage adulte qui a peut-être davantage besoin de l'enfant que l'inverse. Voilà. De la même manière que tout à l'heure, on a décrit le fait qu'il y avait des zombies dans tout le parc de la Villette, c'est-à-dire que les adultes sont complètement infantilisés avec leur téléphone. Donc ça m'intéressait de jouer sur ces curseurs-là, c'est-à-dire de dire que la sagesse n'est pas toujours là, on l'attend. Alors c'est un peu impensif de dire ça, mais en tout cas de montrer que les rapports de force ne sont pas toujours à l'endroit où on s'y attend. Et de montrer que dans le rapport de nécessité, qui a besoin de qui, entre un enfant et un adulte, l'équilibre est beaucoup plus trouble et beaucoup plus complexe qu'on l'imagine.
Et ils ont vu le film, Paul et Cléo ?
Oui, ils ont vu le film récemment, ils l'ont vu il y a 2 semaines. J'avais retardé l'échéance le plus possible en me disant « il faut qu'ils puissent grand, mieux c'est ». Et ça a été un fiasco, on peut le dire. Toute proportion gardée, mais en gros, Cléo... Et ça montre bien le vertige que ça représente pour elle. Cléo, elle a regardé le film et elle était estomaquée en début de film, mais vraiment estomaquée, elle était bouche bée au sens propre du terme. Et elle s'est tournée vers nous et elle a dit « mais c'est ma vie ça ?» Alors on lui a dit « comment ça c'est ta vie ?» Elle dit « mais c'est ma vie ça ?» On lui dit « bah non, pas tout à fait. » Mais elle dit « mais pourtant c'est moi là, donc c'est ma vie alors. C'était ma vie avant ?» Alors on lui a dit « mais non, c'était pas ta vie avant, mais t'as joué à la comédie, tu te souviens, t'as fait un film, etc. » Mais elle comprenait pas. Donc ça montre bien que même à 5 ans, il y avait encore une difficulté à faire la part des choses. Et voilà, c'est assez touchant parce que ça montre comme elle se livre. Et Paul, lui, il a été implacable, il a commencé à regarder le film, et très très vite, il a dit « moi, je veux pas regarder ce film parce que j'ai pas envie de me perdre ». Et de toutes les façons, ce film, il est mal dessiné. Et c'était sans retour, il n'a pas regardé le film, il est parti. Et ils ont une petite sœur qui a 3 ans et demi, donc à l'âge des protagonistes, et qui, elle, était complètement bouleversée de voir son frère et sa sœur se perdre, qui ne comprenait absolument pas, alors là, pour le coup, elle a aucun filtre à 3 ans et demi, qui n'arrêtait pas de hurler. Alors on disait « mais écoute, Marguerite, ne pleure pas, ne regarde pas ». Elle dit « non, non ». J'ai peur. On dit, alors si t'as peur, ne regarde pas. Va-t'en. Non, j'ai peur, mais j'ai envie de regarder. Donc elle a regardé tout le film en hurlant. Cléo, il reste imperturbable. Elle a regardé quand même tout le film jusqu'au bout. Mais on était un peu chez les fous. Il faut bien l'admettre. L'expérience est beaucoup moins traumatisante pour des enfants qui n'ont pas joué dans le film, je tiens quand même à le dire, parce que le film était notamment à Berlin, où il y avait une salle de 800 personnes, il y avait la moitié d'enfants à partir de 5-6 ans, et les enfants, on n'entendait pas une mouche voler, ils regardaient le film, ils étaient happés par le film. En revanche, pour eux qui ont joué dans le film, c'est un peu plus trouble, je vous le cache pas.
Le quatuor de Madrid, Heinz est de passage à Paris. Le nouvel album s'appelle I Don't Run. Il est sorti depuis le 6 avril. C'est toujours aussi libre. Ça ressemble un peu à aller se perdre sur des chemins caillouteux. C'est toujours et encore rock'n'roll. Elles aiment le son lofi, un peu abîmé. Le son qui a voyagé. Il y a des kilomètres et du désir dans les voix. Et l'impression que le tout est enregistré soit dans une rue, soit dans sa chambre. En tout cas, partout où ça vit.
Hola! Nous sommes Heinz, nous sommes en studio avec Stéphane Demoustier et Simon Gaucher. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Auriel Charron sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit. Estamos juntos hasta medianoche.
Sur l'autre ado.
Chers amis, chers parents, nous tous ici présents, nous partons aujourd'hui pour un beau voyage insensé et qui pourtant prend sens aujourd'hui plus que jamais. En ce dimanche 3 juillet, le cœur plein de joie et de tristesse, nous partons à la recherche de l'île d'Utopie. Au départ, il y a un livre écrit en 1516, il y a exactement 5 siècles cette année, par un homme qui perdit la tête. Oui, il y eut un homme au XVIe siècle qui eut l'audace d'inventer dans sa tête une société idéale. Thomas More, un Anglais, se fit trancher cette même tête sur l'échafaud en juillet 1535, 20 ans après que son crâne eut enfanté ce récit sacrilège. Il imagine une île qu'il appelle Utopia. Les mœurs et les institutions de cette île sont consignées dans ce livre intitulé « De la meilleure forme de communauté politique ou la nouvelle île d'Utopia » qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Utopie. Et il définit cette île comme étant la société idéale.
C'est un extrait du film qui retrace votre expérience, Simon Gaucher. Le film s'appelle L'île errance. Et là, vous partiez. Vous aviez longtemps réfléchi à quelle embarcation pour partir. Comment s'est né ce radeau utopique qui allait vers cette île?
C'est né au tout départ de cette île, justement, de cette île dont parle Thomas More au XVIe siècle. Et du fait que, en fait, donc ça, en 2016, quand on est parti, ça faisait 500 ans que cette île était née quelque part, de par le récit Thomas More. Et en fait, on s'est renseigné, on a fait beaucoup de recherches et on s'est aperçu que personne n'était parti à sa recherche, à la recherche de cette île. Et d'où l'idée aujourd'hui de se dire, voilà, si la société idéale existe quelque part, si cette île d'utopie existe encore, eh bien, il faut partir à sa recherche et la retrouver dans l'époque qu'on traverse. Ensuite, comme on n'avait pas d'embarcation, il a fallu en imaginer une, et on a effectivement décidé de construire un radeau, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens d'acheter un bateau, mais aussi parce qu'un radeau, justement, c'est une embarcation qu'on fabrique quand on fuit un naufrage. Un radeau, c'est aussi un véhicule qui emmène l'imaginaire. Là, justement, on entend le radeau de Werner Herzog... Aguirre ou la colère des dieux, c'est un navire de fortune, mais qui peut emmener justement dans des territoires que la réalité ne connaît pas. Et d'où ce radeau, on entendait là justement ce radeau qu'on le mettait à l'eau, et puis après il y a eu ce départ à Rennes début juillet 2016, et après avoir descendu le canal d'Île-Errance pendant 43 jours, on est parti en mer pendant 9 mois à la recherche de cette fameuse île.
C'était l'idée de trouver cette île, mais c'est aussi partir et quitter quelque chose. Parce que vous dites, on quitte un monde naufragé pour cette île. En quoi il était naufragé, ou pourquoi vous aviez envie de le quitter, ce monde-là?
Il est naufragé parce que, à mon sens, il a broyé cette île d'une certaine manière. On parlait tout à l'heure de crise de l'imaginaire. Pour moi, ça, c'est quelque chose de... aujourd'hui, justement, les territoires de l'imaginaire sont complètement emprisonnés par la réalité. Les territoires de l'imaginaire, ils sont pris dans notre incapacité à formuler d'autres mondes possibles, à formuler d'autres sociétés possibles. Aujourd'hui, on est très fort pour formuler des dystopies, pour inventer des catastrophes en chaîne. Alors qu'au XVIe siècle, on avait cette capacité justement de formulation de mondes qui restaient à découvrir, mais aussi parce que justement toute une partie du monde restait à découvrir. Les terra incognita existaient à foison. Et aujourd'hui, quels sont nos terra incognita? Aujourd'hui, quels sont justement les espaces qui nous reste à scruter dans un monde où tout est segmenté, où il y a des frontières partout sur les cartes.
Ou alors il est peut-être très virtuel aussi, où c'est celui que nous propose comme à la Villette, où on se promène avec un écran et où le virtuel, l'imaginaire, c'est ce qui est proposé dans le jeu qu'on a et sur son téléphone.
Oui, complètement. Mais effectivement, pour moi, le virtuel n'est pas du tout l'imaginaire. Il y a une frontière très très grande entre les deux. Le virtuel, c'est un espace autre encore qui nous empêche à la fois d'être dans le réel et à la fois d'être dans l'imaginaire. C'est ce qui emprisonne aussi notre rapport au monde et notre rapport à un territoire sensible, à l'espace intérieur, comme dit Henri Michaud. Et donc pour nous, partir à la recherche de cette île, voilà, c'est fuir quelque chose, c'est fuir quelque chose de ce naufrage généralisé, mais c'est fuir aussi une espèce de sécheresse de la pensée.
Parce que quand vous commencez votre discours en partant, chers parents, chers amis, ne soyez pas affectés de cette disparition programmée, c'est presque aussi leur faute si vous partez.
Je pense que, effectivement, à un moment dans le discours, je dis tout cela ne serait pas arrivé si on avait œuvré à réaliser l'utopie dans le réel, si on n'était pas obligé de partir la chercher. Je pense que chaque génération a besoin de faire sa révolution. Chaque génération a besoin de formuler son utopie. L'utopie de Thomas More, elle a été écrite au XVIe siècle et quand on la relit aujourd'hui, on pourrait y voir une sorte de système politique fasciste, parce que chaque époque a besoin d'enfanter son ailleurs. Chaque époque a besoin d'enfanter ses rêves. Et le problème, c'est, voilà, aujourd'hui, quels sont nos rêves? Qu'est-ce qui fait qu'on peut imaginer un avenir désirable? C'est la vraie question. Et partir chercher cette île qui, voilà, pour certaines personnes n'existe pas, pour d'autres elle existe. Ça, je tiens à le dire parce qu'on a rencontré beaucoup de gens sur le chemin qui connaissent cette île ou qui en ont entendu parler. On a récolté beaucoup d'indices qui nous ont permis en tout cas de trouver des bribes de cette île.
Et c'est aussi le risque d'être déçu, parce que qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas l'île?
Alors ça, on s'est beaucoup posé la question effectivement de quoi faire si on ne la trouve pas. Il y a une réponse en fait qui est venue assez vite, qui est de se dire, voilà, si cette île n'existe pas dans l'Atlantique Sud, puisque enfin, d'après le livre de Thomas More, elle serait en dessous du golfe de Gascogne, qu'est-ce qui se passe? Et il y a une piste qui est née, qui est la suivante, l'idée de se dire, voilà, si on ne trouve pas cette île, fabriquons-la, et que le radeau puisse devenir cette île. Et puis en fait, on s'est rendu compte très vite au fil de l'eau et au fur et à mesure du chemin qu'on en a rencontré énormément d'utopies. Que le territoire qu'on traversait, qui était ce territoire entre Rennes et Saint-Malo, on avait un certain nombre d'escales dans plusieurs communes qui étaient partenaires de l'aventure. Et en fait, les initiatives et les gens qui inventaient leur propre utopie ou qui faisaient société dans ces territoires-là, ils étaient multiples. C'est des gens qu'on n'entend jamais ou qui sont très peu médiatisés. C'est des choses qui sont invisibles. Mais en fait, finalement, il y a eu un archipel qui nous a suivis et qu'on a traversé au fur et à mesure du chemin.
Il fallait partir en plein océan et pour ça, être entraîné par le vent et le courant. Et j'avais choisi les vents alizés et le courant équatorial du nord. J'avais choisi ce vent qui va toujours d'est en ouest et ce courant qui va toujours d'est en ouest. C'est-à-dire que, une fois mis dans ce vent et dans ce courant, le radeau était sûr d'arriver, tout le problème était d'être vivant dedans. Alors au départ, nous sommes partis à deux, parce qu'à l'origine, nous devions être cinq sur deux radeaux. Et puis les quatre autres ont préféré passer leurs vacances ailleurs, on peut ma foi les comprendre. Vous savez que je les plains beaucoup. Je les plains beaucoup parce que ils ont manqué leur aventure. Et je crois l'avoir dit ou écrit un jour quelque part, il vaut mieux une aventure ratée qu'une aventure rentrée. Or ces gens-là, maintenant, ils ont leur aventure rentrée, et croyez-moi, n'ayant pas eu la chance de courir l'aventure, le courage de courir l'aventure avec moi, ils ont laissé passer leur chance. La chance est femelle, on ne l'a qu'une fois, et quand on l'a, il faut la prendre. Personne ne peut partir. On me dit souvent, mais vous pouviez partir, mais non. C'est des déchirements, c'est des options extrêmement graves à prendre toujours. Et je ne connais personne qui soit parti facilement. Tellement bien d'ailleurs que quand on a décidé une aventure qu'elle soit de l'esprit, qu'elle soit du corps, qu'elle soit immédiatement utilitaire ou qu'elle soit une affirmation de la force de l'homme, au moment où on a enfin réussi à détacher les dernières attaches avec la Terre, on pousse un ouf de soulagement. Le piège, c'est la Terre, ça n'est pas la mer. Une fois qu'on est parti, eh bien ça y est, on y est, on n'a plus qu'à la suivre jusqu'au bout. Et quand on me dit, c'était extraordinaire de continuer comme vous avez fait, je réponds, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Une fois que j'étais en mer, je pouvais plus faire autrement. Il fallait ou continuer ou mourir.
C'était la voix d'Alain Bombard. Simon Gaucher, il vaut mieux une aventure ratée qu'une aventure rentrée. Vous êtes d'accord?
Absolument. On a beaucoup lu Alain Bombard, entre autres. On a beaucoup lu Le Kon-Tiki aussi. Enfin, tous ces récits d'aventure qui nous ont précédés. Notamment pour survivre, ouais. Enfin, lui, on a fait l'expérience avec sa propre vie. Je pense que nous, il ne s'agissait pas de survivre. Il s'agissait qu'une idée survive. Il s'agissait que cette île et que la possibilité de cette île survive. Et je pense que le pire, en fait, c'était ça, en fait, se rendre compte que penser l'utopie ou rêver à elle n'était plus possible aujourd'hui.
On a entendu des extraits du film Île Errance, et puis c'est un livre aussi qui retrace cette expérience. Est-ce que l'écriture, l'image, tout ça était présent, ça se construisait en même temps que l'expédition ?
Oui, tout à fait. Sur le radeau, on était une dizaine. Chacun avait un rôle bien défini, un poste à bord, puisqu'il y avait à la fois une cartographe, il y avait un ingénieur, un architecte, mais aussi des artistes, certains acteurs. Il y avait Clément Schneider, donc effectivement, qui avait sa caméra et à qui j'ai demandé de faire son récit de voyage. Dans un voyage, il y a toujours l'expérience même du voyage, les rencontres qu'on fait, les paysages qu'on traverse. Mais je crois qu'il y a une chose aussi qui est très importante, c'est le récit qu'on fait de ce voyage. Et en fait, si on regarde effectivement toutes les utopies ou tous les récits du XVIe siècle, à chaque fois, c'est un récit de voyage. Quand justement Thomas More raconte qu'il a rencontré Raphaël et Claudet qui revient de cette île d'Utopia, c'est un récit de voyage. C'est par le récit de voyage que on peut ensuite transmettre cette expérience à d'autres.
Vous le racontiez tout à l'heure, Simon Gaucher, au fil du voyage, vous avez fait des rencontres. Il y a une rencontre qui est dans le film, c'est cet homme qui est né à New York, je crois, ou qui a grandi à New York, et dont les parents ont connu l'expérience du kibbutz et de cette utopie-là en Israël. Qu'est-ce que ça apportait, ces rencontres et ces témoignages au fil du voyage?
Ça apportait le fait de se dire qu'on n'était pas tout seul à partir dans des quêtes impossibles, que de tout temps, il y a eu cette volonté de rêver un ailleurs, et que finalement, petit à petit, il y a une sorte de communauté qui s'est créée autour de ce voyage, soit de gens justement qui vivaient une utopie ou qui avaient vécu ou entendu le récit d'une utopie ou qui voulaient partir à la recherche de leur utopie qui souhaitaient réaliser leurs rêves. Et petit à petit, voilà, des gens nous ont accompagnés d'escale en escale, et cette communauté, elle a grossi jusqu'à ce que à notre départ à Saint-Malo, il y ait 200 personnes à nous dire au revoir. Et tout ça, on a collecté tous ces petits bouts d'utopie. Après, ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que finalement, l'utopie aujourd'hui, c'est quelque chose... C'est un mot qu'on utilise de façon très péjorative. C'est un nom qui est devenu extrêmement politique et qui est souvent associé à une pensée de gauche, alors qu'il y a des utopies de droite qui sont très très intéressantes aussi.
Et finalement, l'idée a survécu, parce que vous dites que c'était ça l'enjeu aussi, c'était que l'idée revienne et l'utopie revienne vivante du voyage.
Qu'elle revienne incarnée, qu'elle meure pas potentiellement avec nous en mer. Et on est rentré donc 9 mois plus tard avec une encyclopédie remplie justement de pistes. Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, voilà, j'y reviens, c'est qu'en fait l'utopie aujourd'hui, elle est remplie de stéréotypes, elle est remplie de clichés, elle est remplie de conseils des sages, elle est remplie de jardins partagés, et que finalement notre imaginaire même de la société idéale, elle est complètement colonisée par ce qu'on croit être l'utopie. Et donc il s'agissait aussi de démonter finalement tous ces automatismes et de se dire très concrètement comment est-ce qu'on se recrée aujourd'hui des capacités d'imagination, et ce qui est en soi le projet de Thomas More, arriver à formuler une forme de gouvernement politique idéal.
Et les enfants de Stéphane de Moustier dans le film partent à l'aventure et n'ont pas peur. Est-ce que vous, parce que vous n'êtes pas partie à 3 ans et demi, mais, mais adulte, y a eu des moments de peur?
Oui, bien sûr, ouais. Enfin, les moments de peur, je pense que c'était très lié en fait au groupe qu'on formait, parce que de fait, habiter sur un radeau pendant un certain temps, c'est comme une micro-société qui vit ensemble. Et de fait, ça a provoqué des tensions, ça a provoqué aussi des histoires d'amour. Mais finalement, notre noyau d'explorateur était peut-être le plus fragile et le plus périlleux. Et donc, peur d'exploser en vol. Mais à part ça, oui, il y a toujours la peur de partir sans revenir. Mais d'abord, une joie, en fait, une joie très, très, très profonde.
Stéphane de Moustier, est-ce que vous avez beaucoup d'aventures rentrées ou est-ce que vous arrivez à les vivre?
En tout cas, j'ai trouvé dans cette phrase un vrai écho. Je me suis dit que c'était valable pour les films. Il vaut mieux un film raté qu'un film rentré. Michel Platini disait la même chose à ses joueurs. Il leur disait ce qui peut vous arriver de pire, c'est de perdre un match de foot, mais allez-y, jouez. Ouais, je me suis dit pareil, jouons. Voilà. Et après, la notion de voyage, elle est intéressante. Paul et Claude, dans le film, ils vivent un vrai voyage, mais à la porte de chez eux. Et je pense que plus que le point d'arrivée, c'est le voyage qui est beau. Et le voyage, Simon choisit de le faire physiquement et c'est magnifique. En plus, c'est le voyage total, on n'est pas sûr de revenir. Et c'est le vrai voyage, c'est pas du tourisme. Mais il y a aussi les voyages intérieurs qui peuvent être grandioses. Moi, je crois que vous me demandez si j'ai des aventures rentrées ou ratées. En tout cas, moi, mes voyages, je voyage aujourd'hui assez peu, mais j'aime quand ils sont intérieurs. Enfin, c'est des livres, c'est des expériences intellectuelles que j'essaye de trouver le temps, parce qu'il faut pour ça s'extraire du réel et du trivial, que j'essaye encore de trouver le temps, parce que c'est là qu'on s'élève et c'est là qu'on vit.
Et Simon Gaucher, j'imagine que dans ce voyage très concret, il y avait aussi un voyage intérieur. Vous parlez de capacité d'imagination à augmenter. Est-ce que votre imaginaire, justement, il a été modifié ou il s'est augmenté avec cette traversée?
On y a travaillé, en tout cas. Moi, ce qui m'apparaît vraiment par rapport à cette question, c'est justement comment on choisit de voyager. Effectivement, on peut ouvrir un livre et c'est un voyage qui commence. Quand nous, on s'embarque sur un radeau, c'est un radeau qui va extrêmement lentement, en fait. Parce que ça, on l'a compris quand on a sorti le radeau de l'eau l'été dernier, c'est qu'en fait, c'est un engin qui pèse 7 tonnes parce qu'il est en bois massif, en chêne rouge du Canada pour pas pourrir dans l'eau. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, on avançait à peu près à 900 mètres par heure. Et le fait d'avancer 900 mètres par heure, donc c'est à peu près 3 fois moins vite que en marchant à pied. Et ben ça ouvrait un paysage, ça ouvrait un territoire qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Et cet exercice et cette nécessité de la lenteur, alors on avançait avec des perches, avec des rames, parfois attirées par un cheval sur le chemin de halage, le fait d'aller si lentement, en fait, ça nous a fait redécouvrir un territoire qu'en voiture, on peut mettre 45 minutes entre Rennes et Saint-Malo à faire, et là, on a mis 43 jours. Donc, c'était pour moi une façon de complètement percuter nos sens et les paysages qu'on traversait. Et ça a fait naître beaucoup, beaucoup de choses en termes de réflexion. Ça a bouleversé, notre rapport à la pensée.
Et ça, les enfants aussi ont un rapport au paysage, à ce qui les entoure. Paul peut rester une heure sur une grille en la bougeant comme ça. Enfin, ils ont un rapport forcément.
Oui, et la perception du réel, elle est altérée aussi parce qu'on voit le monde à leur hauteur. C'est vrai que le simple fait de mettre la caméra à 1 mètre du sol fait que la perception du monde n'est pas la même. D'un seul coup, les foules deviennent des foules de jambes. Le parc de la Villette qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, en tout cas, c'est pas la même expérience que de le vivre au ras du sol. Et rien que ça, de déplacer la façon dont on regarde les choses, c'est souvent ça, le travail d'un regardeur. C'est aussi de regarder différemment. Ça éclaire sous un nouveau jour les lieux, ça éclaire sous un nouveau jour le réel. Il y avait aussi cette idée-là dans le film, de se dire, tiens, on va regarder différemment. Pour mieux voir. C'est-à-dire, oui, on vit le film à hauteur d'enfant, mais c'est aussi pour mieux raconter le monde dans lequel on vit.
Mercredi 10 Août. Vent du nord. Temps clair. Le radeau est calme ce matin. Comme s'il savait que l'heure était venue. Dans quelques heures, nous passerons l'écluse du Ney. La dernière des 52 écluses que nous avions à franchir à notre départ de Rennes. Dernier chargement. Ne reste sur le radeau que les affaires absolument indispensables et l'équipage. Nous mettons la voile pour sortir du port de Saint-Malo. Dès que nous franchissons le môle, nous sommes en pleine mer. Une mer hachée et brutale. Nous craignons que le radeau se disloque. Mais encore une fois, notre cher vaisseau tient bon. Et nous échouons volontairement, mais non sans mal.
Simon Gaucher, pour inventer une nouvelle société, ou pour une société idéale, vous avez imaginé un jeu de société pour inventer la société. Comment vous nous le présenteriez si on voulait jouer avec vous, Stéphane de Moustier et moi? Il faut être plusieurs.
Ah, c'est mieux d'être plusieurs, ouais. Faire société, tout seul, c'est un peu compliqué, même s'il y a des gens qui sont multiples. En fait, c'est un jeu qu'on a créé pour justement s'entraîner entre équipages, justement habiter sur un radeau pendant plusieurs mois. Donc c'est un jeu qui propose à des groupes de joueurs d'être sur un radeau et d'être confrontés à un certain nombre d'événements et de problèmes d'organisation. Et en fait, donc il y a plusieurs radeaux qui coexistent, et quand deux radeaux se rencontrent, deux équipages se rencontrent, ça forme une île. Quand trois radeaux se rencontrent, ou quand deux îles se rencontrent, ça forme un continent. Et donc petit à petit s'inventent les règles d'une société utopique, mais qui permet en tout cas de tester très concrètement à petite échelle.
On peut jouer à combien ?
Alors on peut jouer de 10 à 100 personnes à peu près, voire à 60 millions.
Alors si vous voulez jouer au jeu de société pour inventer la société, vous serez à Bordeaux le 8 juin, par exemple.
Voilà, au Festival Chahut qui nous accueille et qui accueille également une projection du film Millérance le 9.
Et vous avez déjà beaucoup joué à ce jeu ?
On y a joué à un certain nombre de fois. On y a joué avant de partir, on y a joué sur le radeau, on y a joué dans toutes les communes qui accueillaient aussi qui étaient des escales de notre aventure. Donc je pense que là, ça va être peut-être la 16e fois.
Et ils s'inventent des sociétés intéressantes.
Oui, à chaque fois, il y a vraiment des choses assez folles qui s'inventent et qui, après, voilà, à chacun, chacun peut ensuite tester justement ce qu'il invente durant ce jeu dans sa vie propre.
Quand tout est bon, vu de là-haut, vu de là-haut, quand tout est bon, quand tout est bon, vu de là-haut, quand tout est bon. Dans la campagne, plus rien ne bouge, la mer est bleue, la terre est rouge, quand tout est bon, vu de là-haut, vu de là-haut, quand tout est bon. Lola, lola, lolé, lola, lola, lolé, lola, 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 tila, tila, tolé, tila, tila, tolé, tila, tila, tolé, tila, tila, tolé.
On sera parti de Paris pour aller vers l'île d'utopie, de la peur pour revenir au tout début de la vie, du virtuel pour revenir à l'imaginaire. Heinz, leur album s'appelle I Don't Run et il est sorti le 6 avril. Stéphane de Moustier, son film Allons enfants est dans les salles depuis le 18 avril. Et Simon Gaucher, avant de partir dans son nouveau voyage au Japon en résidence en septembre, sera dans les musées de Quimper, Rennes, Brest pour le projet Musée Recopié en mai et en juin. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique, merci à Jean-Michel Bernot et Jean-Benoît Tétu. Vous écoutez France Culture, il est minuit, c'est déjà demain et c'est l'heure des nuits.
Estáis escuchando Francia Cultura, es medianoche.
Dans la campagne, plus rien ne bouge, la mer est bleue, la terre est rouge, quand tout est beau, vu de là-haut, vu de là-haut, que tout est beau. La 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 vu de là-haut, que tout est beau. Quand tout est beau, vu de là-haut, vu de là-haut, que tout est beau. Dans la campagne, plus rien ne bouge, la mer est bleue, la terre est rouge. Que tout est beau, vu de là-haut, vu de là-haut, que tout est beau.